RMC Football Show, l'After Foot, Nicolas Villas.
Accompagné de Pierre Ducrot et de Daniel Riolo, c'est parti pour l'after. On est ensemble pendant une heure. Messieurs, voici le sommaire de cet after qui arrive d'ailleurs pile poil à l'heure. Les dernières affiches de la 9e journée de Ligue 1. Bordeaux, Nantes, 3-0 pour Bordeaux face à Nantes. Marseille qui a battu Caen 2-0. Monaco s'est incliné à domicile 2-1 face à Rennes. Et le Paris Saint-Germain qui vient de cartonner l'OL 5-0. Les 3 points de Daniel et de Pierre, bien évidemment. L'évaluation de ce Paris Saint-Germain. Lyon, notamment. Comment ça va, les gars? Très bien. La soirée.
Impeccable.
Bien ou pas? Je donne quelques résultats à l'étranger également. Sachez qu'en Angleterre, Arsenal s'est imposé 5-1 face à Fulham. Chelsea a gagné 3-0 face à Sutton. Liverpool City 0-0. Le Barça vient de faire match nul 1 partout à Valence. Séville a battu le Celta 2-1. En Italie, l'Inter a battu la Spal 2-1. Le Napoli a battu Sassuolo 2-0. Milan a battu le Chievo 3-0. Au Portugal, le Benfica a remporté le Classico 1-0 face au FC Porto. Et il reste quelques secondes à jouer entre Portimonense et le Sporting. Et Portimonense mène 3-2. Ouais, lanterne rouge du championnat portugais. Face au Sporting, ils ont même gagné 4-2. Ça vient de se terminer. Grosse surprise au Portugal également. Messieurs, on va débuter par le plus important. Et le plus important, vous le savez, c'est les 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Daniel, on va commencer par tes 3 points, s'il te plaît.
Alors, le premier point, c'est le constat au sortir de ce match qu'on a vu une sorte de grand spectacle. Virgule, mais grand public. Pourquoi? Parce que, et c'est mon deuxième point, on a vu une quantité astronomique d'erreurs dans ce match et des deux côtés. J'ai rarement vu ça.
C'est bizarre, ce match, mais. Hein.
Très bizarre, avec mais des erreurs, mais incroyables.
Et pourtant, il n'y a pas eu, toujours d'intensité. Ça, on en parlera tout à l'heure, pardon.
Et mon troisième point, sur les matchs de l'après-midi, j'ai choisi de parler de l'OM, parce qu'en dehors des deux qui s'affrontaient ce soir, c'est évidemment l'autre grand club dans ce championnat. Ils ont gagné. Je ne les ai pas trouvés méga convaincants. Je ne sais pas si après cette victoire-là, ils pourront dire qu'ils ont complètement soigné les maux du moment. Mais je pense que pour eux, l'important, c'était vraiment de gagner aujourd'hui.
Pierre, tes 3 points, s'il te plaît, ce soir.
Eh ben, le premier, moi, je vais mettre match bizarre. Voilà, match bizarre. Ça, pour moi, il n'y a pas eu beaucoup d'intensité. J'ai pas retrouvé. Alors, ça rejoint un peu ce que va dire Daniel, je pense, sur les erreurs techniques, sur le PSG qui maîtrise pas du tout. Même si on va reparler du plan de jeu bas, etc. Mais il n'y a pas eu assez de maîtrise pour moi du côté parisien en première période, notamment. Ensuite, la deuxième est différente. Il y a des faits de jeu, etc. Le deuxième point, forcément, pour moi, c'est Mbappé quand même. On obligé d'en parler parce que c'est quand même phénoménal. Et le troisième, je vais mettre le petit Caramo de Bordeaux pour reparler du Bordeaux-Nantes et pour son but magnifique.
Bah, qui était l'un des meilleurs buteurs de Ligue 1 jusqu'au quadruplé de Neymar, de Mbappé.
Et puis le but qu'il met, il est
c'est vrai.
Ouais,
c'est vrai
qu'il met un joli but. Je vous donne mes 3 points également, ça va aller très vite, parce que les deux premiers, c'est comme toi. Moi, je trouve que ça a été un match, et un peu comme toi aussi, Daniel, c'était un match qui était très étrange. Alors, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de déchets. En première période, on s'est dit le PSG est en train de galérer, et finalement, il s'impose 5-0. Ouais. Deuxième point, bah, c'est Mbappé, parce que, voilà, c'est pareil. Alors, il croque 4 occasions. Bah,
excuse-moi, mais est-ce que c'est pas à l'image de ce qu'a fait Mbappé, ce match?
Oui, c'est ça, exactement.
Il met 4
buts,
mais avant qu'il mette le premier,
il peut en mettre 7.
Mais combien tu veux t'arracher les cheveux tellement il fait des mauvais choix de passe.
Daniel.
Il fait,
on finit les 3 juste le dernier, parce que toi, t'as dit Marseille.
Plus rien à dire après.
T'as dit Marseille, toi t'as dit Marseille.
J'ai dit Bordeaux.
Et ben moi je vais dire Monaco. Bordeaux, Monaco parce que ça commence à faire beaucoup trop peu d'ailleurs, mais ça commence à sentir mauvais pour l'AS Monaco et qui est toujours relégable au classement.
Ça fait un petit moment que ça sent un peu.
Ah mais là tu perds quand même contre Rennes. C'était un match un peu match important quand même là.
Léo Menen 72 heures, il est cramé depuis longtemps.
Ils reviennent dans le match quoi.
À 10 contre 11. Hein.
Ouais, il y a rien qui leur réussit en plus quoi.
Ouais, mais c'est parce qu'il y a plus la foi, il y a quelque chose qui va pas là.
Messieurs, Paris Saint-Germain, Lyon, c'était la dernière affiche de cette 9e journée de Ligue 1, victoire 5-0 des Parisiens. Alors le match qui avait débuté avec la blessure de Fekir à la 7e minute de jeu, penalty pour Neymar ensuite après une faute
premier
de Lopez.
Premier fait de jeu important.
Oui, c'est pour ça que je le dis. Faute de Lopez dans la surface de réparation sur Mbappé, penalty transformé par Neymar, on est à la 9e minute de jeu.
Mais en fait le truc c'est qu'à chaque fois si tu mets juste un adjectif derrière, ça va montrer toute la folie du match. Faute mais débile
dans un angle fermé
de Lopez quoi. Mais alors une faute mais stupide.
Ensuite on a rouge de Kimpembe à la 34e.
Absurde. Carton, mais
normal,
absurde.
Mais normal.
Bien sûr.
Logique.
Mais qu'est-ce qu'il a besoin? À ce moment-là, les Parisiens, ils font n'importe quoi.
Il y a 1-0.
Parce qu'ils sont 3 à passer au travers. Ils sont 2 avant que.
Et lui, il voulait pas être le 3e.
Bon Dieu, qu'est-ce que c'était horrible cette action aussi.
45e, exclusion de Touzard qui prend un deuxième jaune.
Stupide aussi. Il sait qu'il a un carton.
Tu sais qu'on tient un truc, ça peut être marrant de faire ça, le film du match avec un adjectif à chaque fois.
Ah non, mais écoute, dans ce match-là, il y a une quantité d'erreurs dingue. Touzard, il sait qu'il a jaune, mais il ne va jamais faire ça.
Il est à 75 mètres de
fond. Franchement, Lyon peut gagner le match. Aussi fou que ça puisse paraître. À l'arrivée, il termine avec un bain de pied.
Tu penses comme Lionel que c'est un tournant du match, l'exclusion de Touzard?
À ce moment-là.
Il y en a plusieurs tournants, en fait.
Il y a que des tournants. C'est une route de montagne, ce match. Et à l'arrivée, ça se termine en carambolage dans la tête.
Et à la fin, j'ai vomi. Ouais.
Et 61e, 66e, 69e, 74e, Kylian Mbappé, 5-0.
Tu peux rajouter le poteau des Lyonnais. Alors nous,
ouais, il y a pas tout noté.
Le poteau à la limite.
Mais au moment où il arrive, tu vois, ça peut.
Mais c'est ce que rate Cornet.
Ah oui, aussi, avec ses, il apprend de la semelle au lieu de la
prendre. Ah, il y a un zéro à ce moment-là.
Où tu parlais de virage, route de montagne. Cornet, il peut pas la louper, celle-là. Ouais. Cornet, tu peux pas louper ça.
Ah, il y a eu plein de choses comme ça.
Tu peux pas.
Alors, Paris a loupé aussi beaucoup devant le but, donc.
Paris a loupé, mais une énorme. Mais d'ailleurs.
Il est bizarre, ce match.
Mais d'ailleurs, au début de match, pendant que Lyon dominait, quand ils ont eu le péno dans la foulée, il y a deux situations.
Oui,
s'il joue mieux.
Il doit jouer avec Neymar.
2-0, match, il n'est pas plié, mais enfin, ça le met dans deux dispositions.
Donc, tu tues les Lyonnais, mentalement.
Alors, conséquence au classement.
Plein de choses.
C'est important, aussi. Alors, le PSG leader, ça, on le savait, ils reprennent 8 points d'avance sur Lille, qui est deuxième. Marseille est troisième avec 16 points. Montpellier compte le même nombre de points et son 4. À la cinquième place, on a Saint-Étienne et à un point derrière, on a l'Olympique Lyonnais qui est donc pour l'instant, à cinq points de la deuxième place.
On parle beaucoup de Marseille, enfin on parlait beaucoup de Marseille, ça va pas, machin, etc. Bah ils sont devant Lyon.
Ouais, ils ont 2 points d'avance.
Bah ouais, mais là, l'air de rien, ils sont devant Lyon, 2 points.
Alors qu'ils ont pris une tarte par Lyon.
Non mais c'est fou, hein. C'est fou.
Messieurs, on va accueillir Mathias, tiens, supporter du Paris Saint-Germain, qui était au Parc des Princes ce soir et qui a suivi ce match, cette victoire 5-0 du Paris Saint-Germain face à l'OL. Salut Mathias.
Salut Nicolas, salut Pierre et salut Daniel.
Alors est-ce que comme nous, Mathias, toi aussi t'as vécu un match un peu bizarre, un peu chelou ce soir?
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec votre analyse. C'est un match assez bizarre, compliqué à analyser. On mérite pas de gagner 5-0 ce match en toute objectivité. Il y a une première mi-temps où on mène 1-0, mais c'est vraiment contre le cours du jeu. Parce que j'ai trouvé que Lyon avait mieux joué que nous. Il y a plus de tirs de leur côté. Plus cadrés, ils ont davantage la possession que nous. Donc pour moi, c'était le choc qu'on attendait. Il y avait une grosse intensité. Il y a eu des contacts extrêmement rudes.
Une stat, Mathias, qui va t'intéresser là-dedans.
À la mi-temps.
37% de possession de balle pour le Paris Saint-Germain depuis 2010.
À la mi-temps.
Depuis 2010, ça s'était pas vu. Et c'était à l'extérieur, à Lyon.
Ouais, puis j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'énervement de la part du PSG, notamment Kimpembe qui prend en rouge et qui est peu coutumier de ce genre d'intervention.
Ouais.
Verratti qui est très énervé aussi, qui est à la limite du rouge à un moment donné, qui arrête pas d'aller vers l'arbitre, etc.
Il fait beaucoup de fautes et certaines qui vraiment limite.
Mais tu sais ce qui les énerve, c'est les pertes de balles successives et le fait qu'ils n'arrivent pas du tout à enchaîner.
D'un point de vue collectif, les Parisiens franchement ont pas été extraordinaires. Loin de là ce soir. Alors ce qui joue toujours en faveur des Parisiens, c'est qu'il faut pas s'arrêter au début du match. C'est long, c'est 90 minutes. Et sur 90 minutes, ils ont des individualités. Il faut quand même dire que moi je trouve qu'au-delà du quadruplé de Mbappé, l'homme du match, c'est Neymar
qui fait
extraordinaire. C'est que à chaque fois c'est les décalages, toutes les accélérations plein axe, les passes, ce qui transperce les Lyonnais, c'est Neymar, c'est lui le cadre ce soir. À l'arrivée, ça fait un compte très exagéré au niveau du score. Les individualités ont encore fait une énorme différence, mais collectivement, le milieu de terrain, si on me dit aujourd'hui que la doublette Verratti-Marquinhos au niveau en Ligue des Champions, elle va tenir la route.
Justement, parce qu'on s'était fait la réflexion d'ailleurs au moment où Tourelle fait ce fameux remplacement, il y a l'exclusion donc de Kimpembe, il enlève Cavani, il fait rentrer Kerrer, et nous on s'était dit finalement, il va peut-être remettre Marquinhos en défense centrale et faire rentrer un autre milieu de terrain, Thomas Tourelle. Vous avez pensé quoi de ce changement?
Déjà, je vais te dire, je vais te dire très très humblement, moi à ce moment-là, je sors Mbappé, je laisse Cavani, parce que je me dis que les Lyonnais vont dominer et que celui des deux qui va le plus travailler, parce que t'as le choix où tu gardes Mbappé parce que tu vas avoir des balles de contre, et t'as le choix de garder Cavani parce que c'est celui qui va travailler le plus. Tu vas t'asseoir sur ton 1-0 et tu vas espérer que Neymar, en lançant Cavani avec Di Maria, il y aura des opportunités. À l'arrivée, Tuchel a raison puisque Mbappé lui en colle 4. après avoir raté à peu près tout ce qu'il a essayé. Non,
il aurait pu avant le
premier
il
de ses buts.
Il aurait pu laisser Cavani et Mbappé et faire rentrer un Diaby ou un Draxler au milieu et descendre Marquinhos, en défense
aussi faire ça.
Honnêtement, aujourd'hui, le match, je sais pas,
mais Mbappé, il le garde, il met 4
buts au parc, mais le match de Marquinhos au milieu, moi, je le trouve très moyen.
Mais alors, c'est en dépense d'énergie, il n'y a pas de problème.
Oui, non, non.
Mais c'est après, c'est vrai que sur son placement,
lui, on sait qu'il pêchera jamais là-dessus. Voilà. Mais
après, on sait jamais vraiment où il est.
Mathias, t'en as pensé quoi, toi, du match de Marquinhos, justement, de ce milieu de terrain, notamment?
Bah, c'est-à-dire que dans un match de Ligue 1, je pense que c'est suffisant parce que Marquinhos est suffisamment bien entouré. Il y a quand même Verratti et quand il est pas suspendu, il y a quand même Rabiot. Mais en Ligue des Champions, j'ai peur que le fait de pas avoir un vrai 6 de métier comme Thiago Motta qui est capable de mettre le pied sur le ballon, ça nous pénalise. Et on va voir ça très rapidement au parc très prochainement face à Liverpool.
Napoli.
C'est Naples d'abord et ensuite Liverpool. Et je pense que ça c'est quelque chose qui nous fera défaut et qui nous empêchera d'aller loin en Ligue des Champions.
T'as le Napoli deux fois d'ailleurs, Mathias, hein, pour être
précis. Oui, c'est un match à retour.
Ouais. Et je pense que je voulais revenir aussi sur ce qu'a dit Daniel, je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire que Neymar, il a vraiment régalé ce soir, mais il a régalé à la fois ses partenaires, c'est ce qu'on lui demande de faire, il a été décisif sur penalty, et il a aussi régalé le public, et ça je trouve que c'est important, parce que c'est une icône pour tout le monde. Alors à chaque fois, effectivement, dès qu'il y a un môme qui rentre sur le terrain, effectivement, c'est un beau geste, etc. Mais le fait d'avoir des vraies attitudes, de demander au parc de se lever, et de montrer un peu des mimiques de on est en train de les éclater entre guillemets en arroguant les supporters, ça fait du bien aussi.
Oui, pour le public, c'est très bien.
C'est le fameux match spectacle dont tu parlais, hein,
ça et ce qu'il a fait dans le jeu aujourd'hui. C'était très efficace en plus. Ça a été vraiment chirurgical ce qu'il a fait notamment en seconde période.
Mathias, merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Bonne soirée, Mathias. Entre bien. Bon merci et salut, Mathias. Ciao, ciao. Merci. On va accueillir Gabriel, autre supporter du Paris Saint-Germain, qui est en direct avec nous dans l'after. Vous nous appelez au 32-16, hein, vous aussi, pour participer avec nous. Vous réagissez sur l'application Direct Studio. Salut, Gabriel.
Salut, Gabriel.
Ouais, bonsoir, Nikos. Bonsoir, Gilbert. Bonsoir, Pierre. Content, quoi. Content parce que la physionomie du match, elle est un peu folle. Franchement, après la sortie de Kimpembe, je sentais le vent tournait, quoi, et au final, la sortie de Touzard a un peu rééquilibré ça, et après, les Parisiens ont eu énormément d'espace, ils les ont créés aussi, du coup, ils ont eu énormément d'espace, Lyon a craqué, quoi.
Ouais. Moi, je me demande, messieurs, si c'est pas effectivement Lyon, alors, de par l'effet de jeu, de par l'expulsion, de par le but qui vient tôt après en seconde période.
Qui a lâché le match?
Si c'est pas Lyon qui a plus lâché et permis aux Parisiens d'avoir,
Pierre,
un peu plus d'emprise.
T'as raison, depuis tout à l'heure, on parle du PSG, quand j'ai parlé du festival d'erreurs et tout. Mais
la grosse différence entre les deux périodes, c'est Lyon qui fait pas les mêmes périodes.
Il faut quand même s'arrêter 2 minutes sur ce qu'a fait Lyon. Ils ont fait un match, mais plus à l'envers que ça, c'est difficile.
Mais d'ailleurs, est-ce que ce fameux deuxième jaune de Touzard,
seconde période plutôt, parce que
le rouge de Touzard, c'est le symbole, c'est déjà
l'effet de jeu. Je suis d'accord, mais collectivement, il bouge quand même le PSG sur la première période.
Oui et non. Je comprends ce que tu veux dire dans le sens où pendant 20-25 minutes, ils sont très bien. Mais ils font pas ce qu'il faut et à ce moment-là tu dois garder tes nerfs tout et la gestion du match c'est 90 minutes encore une fois.
Ça ne peut pas être que
20-25 d'une bonne période ou une séquence même un peu longue comme ça à l'arrivée, c'est catastrophique entre ce que fait Lopez d'entrée, ce que fait Touzard, ce que fait Genesio au moment où Touzard est expulsé. Peut-être tu dois réorganiser ton équipe un peu différemment.
Il perd deux joueurs sans blessure très tôt aussi. Hein.
Est-ce que
le coaching il est aussi conditionné
par ça?
Est-ce
que Fekir qui sort, ça doit être remplacé par Cornet? On peut se poser aussi la question, tu vois. Il a pas de mec du même profil que Fekir.
C'est un match où il est bien dans son match, tu vois. Il pense peut-être qu'il va pouvoir continuer à faire ça à 10. Je pense que c'est son idée.
Il y a énormément d'erreurs. Je vois pas ce que lui a apporté ce soir Morel par rapport à Marcelo. Peut-être il pensait un peu de vitesse, mais je vois pas ce que Morel lui a apporté.
Ouais.
Si, qu'est-ce que ça peut être d'autre de préférer Morel à Marcelo? Franchement.
Bref, la vitesse, quoi.
Parce que la vitesse, Morel, c'est pas
Morel, il n'a pas de physique non plus, mais la vitesse
en ce moment, il est pas bien.
Marcelo, ça va pas super vite. Mais Lyon, ils font le match que fait Lyon. Alors si ce soir, ils sortent avec des regrets, des machins, là, franchement, c'est qu'ils comprennent rien, quoi.
Bon, on les attend, les supporters de l'OL.
Ok, t'as bien joué 25 minutes, mais il y en a encore un paquet de minutes pour faire 90. Et tu fais tout à l'envers. Tu marques pas quand il faut que tu marques.
Je suis pas vraiment d'accord avec toi sur la première période. Ils font rien à l'envers. Qui te manque, un peu
la réussite.
Ouais, la réussite.
Tu dois marquer,
il te manque autre chose dans les 20 derniers mètres.
Après, tu peux pas faire 60 minutes où tu donnes les ballons. Mais même dans la
période. Je suis d'accord. Il y a des erreurs de commis.
La période dont tu parles. Même la période dont tu parles,
moi,
ils sont bons.
Pour moi, c'est 35
minutes. Tu t'en souviens des occasions où on donne le ballon à Di Maria, on relance au milieu, on relance dans l'axe, mais ils en ont fait des tonnes, erreurs, les Lyonnais.
Ce que le Paris Saint-Germain a fait énormément aussi en première période, mais sans avoir cette maîtrise que les Lyonnais avaient et sans être très haut sur le terrain comme les Lyonnais l'ont fait.
Si Paris exploite tous les ballons perdus mal relancés dans l'axe, je me souviens de passe latérale que Cavani intercepte, les comptes qui sont là.
Mais c'est quoi
la bonne séquence des Lyonnais?
Si ce match-là et les équipes
se font assassiner encore plus qu'ils l'ont été.
Là, ce match-là, si les deux équipes profitent et sanctionnent les erreurs, les erreurs grossières qu'il y a eu de commises, on finit à 19-18 pour le PSG.
Celles des Parisiens sont des erreurs offensives où ils ont pas su. Et malgré les 5 buts, c'est ça qui est fou.
Les Parisiens, ils ont fait aussi beaucoup d'erreurs derrière
où ça?
Où ça? Non, il y en a eu, messieurs.
Thiago Silva, il a fait un énorme match.
La première demi-heure, il y en a plein des erreurs.
Il n'y a pas d'erreur défensive.
Tu rigoles ou quoi?
Des erreurs de relance.
Meunier, il y a 3-4 fois, il est beaucoup trop haut, alors qu'on subit, et ça passe.
Mais ça n'a rien à voir avec les erreurs des Lyonnais.
Ah,
les Lyonnais, c'était je te donne la balle.
Perdu par Marquinhos au milieu dans la première demi-heure. Mais revoyez la première demi-heure.
Je te parle de faute manifeste où, genre, il donnait le ballon à l'adversaire.
Ça arrivait en cours de la première demi-heure.
Il y en a eu.
C'est pour ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on parlait du déchet technique, la première demi-heure, c'est de part et d'autre. Vraiment, hein, quand les Parisiens sont pas bien,
pour ça
il y a aussi des relances ratées. Il y a
pour moi les
Lyonnais, c'est sans conséquence.
On en fait vraiment des sacoches pleines, quoi.
Bah, disons que ça a duré plus longtemps, surtout.
Trop.
Que les Lyonnais,
même dans la première demi-heure, revoyez les occasions données, là, les ballons interceptés au milieu, il y en a au moins trois à ce niveau.
Oui, mais il y en a eu côté Lyonnais aussi. Là-dessus, je te rejoins.
Mais je vois pas de Parisien qui donne le ballon à l'adversaire.
Bon, si tu veux, c'est quoi? On aura juste le premier quart d'heure.
Le ballon qui va directement dans les pieds, qui va dans la balle. Comme celui de Cavani,
le premier quart d'heure. Je m'entends redire en commentant le match, mais c'est pas possible. Ils gardent pas un ballon, les Parisiens. Ouais. Ils perdaient le ballon directement.
Gabriel, tu voulais rajouter un truc?
Aussi dangereuse que les Lyonnais, mais.
Moi, je voulais signaler aussi le fait. Enfin, on finit à 10 contre 10, mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que Touré est quand même resté fidèle à son idée. Lui, il a continué à jouer avec deux attaquants. Là où du coup, Genesio, je pense, a été beaucoup plus prudent. Peut-être que s'il avait maintenu un système offensif, puisqu'après tout, c'était à 10 contre 10, avec un peu de pression devant, ça aurait peut-être pu déstabiliser un peu plus les Parisiens. Là, du coup, il y avait
Il fait rentrer Cornet pour Touzard. Le carton rouge de Touzard, c'est Cornet qui rentre, hein, quand même. Non?
Oui, mais
quand Fekir se blesse, pardon. Pour moi.
Ouais, voilà.
Quand Touzard sort, il fait rentrer qui?
Dubois, je crois.
Mais c'est parce que Raphaël se blesse.
Non, parce que Raphaël se blesse.
Ah non, ouais, non, mais il fait rentrer.
Non, il fait pas de changement tout de suite. Il fait pas de changement tout de suite.
Après, c'est Cornet qui ressort.
C'est Cornet qui ressort, ouais, c'est ça.
Il laisse son système comme ça, et du coup, t'as plus que Depay tout seul. Ils ont plus qu'une seule solution devant. Alors que Paris a continué à jouer avec deux solutions offensives. Il y avait quand même Mbappé qui faisait des appels, Neymar qui était entre les lignes. Et du coup, je pense que les Lyonnais, ils étaient largués. Et après, il y avait trop d'espace entre eux et ça a craqué, la
différence, et c'est que t'as un Fekir qui sort et que quand tu compares forcément Neymar et Mbappé avec ce qui reste de l'autre côté, c'est-à-dire Depay et Traoré, effectivement, ça fait la différence.
C'est pas pareil, moi je le dis, je suis parisien, et très franchement, heureusement que Touzard se fait sortir. Parce que je pense que la physionomie du match, elle change et on sort pas avec un 5-0. Je pense que Paris, ce soir, si on reste à 11-10 contre Lyon, on peut perdre. Parce que progressivement, on l'a vu déjà sur la demi-heure où on joue à 10, on est quasiment sur nos buts. Et bon, les Lyonnais ont pas su profiter sur ce moment-là, heureusement, mais sur les 70 minutes qui restaient, si ça avait continué comme ça, ils auraient peut-être pu réussir à en profiter.
Alors que là, on a un score quand même rare, 5-0.
Ouais.
Un score énormissime quand même, c'est une sacrée raclée, quoi.
Merci Gabriel d'avoir été avec nous. Gabriel.
De rien, bonne soirée.
Bonne soirée, salut Gabriel. Les supporters de Lyonnais nous appellent au 32-16 également. On va accueillir Nicolas qui est avec nous en direct dans l'after. Salut Nicolas.
Bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Alors Nicolas, il y a beaucoup de supporters parisiens qui disent finalement 5-0, c'est beaucoup trop flatteur pour nous parisiens. Toi en tant que Lyonnais, est-ce que tu trouves que c'est sévère ce 5-0 ce soir aussi?
Ouais, je trouve que ça n'a aucune importance que ce soit 5-0 ou 2-0 dès le deuxième but. Si on se le prenait, c'était fini. Parce que déjà, je trouve qu'il y a eu des erreurs. Je suis d'accord quand Daniel dit que c'est pas Cornet qui doit rentrer quand Fekir sort. Donc déjà, à partir de là, quand je vois que Fekir se blesse, je me dis que ça va pas être une bonne soirée. Et puis qu'on est un attaquant sur le banc et que tu mets Cornet à la place alors que tu aurais pu faire reculer deux pas, je me suis dit c'est bizarre comme façon de voir les choses.
T'aurais fait rentrer qui toi?
Bah j'aurais fait rentrer Dembélé à la place de Depay, et Depay joue en 10 comme il a déjà fait plusieurs fois pour dépanner.
Moi je suis d'accord. En plus ce soir, alors Memphis c'est toujours un petit peu bizarre ces matchs, mais ce gars-là dans les gros matchs, parce que je sais pas, ça a l'air de l'intéresser plus, mais il a une énorme qualité technique et effectivement un petit peu reculé, il aurait pu parce que ce mec déclenche un peu des frappes de un peu n'importe où qui sont souvent dangereuses. Moi oui, effectivement j'aurais peut-être fait ça. Ouais,
on fait reculer Memphis comme vous proposez, ça se finit comme ça en 5-0. Est-ce qu'on n'est pas les premiers à dire ouais mais il y a aucune ambition dans le changement, donc du coup ils subissent, donc du coup ils perdent 5-0. Genesio aurait dû faire rentrer un attaquant pour maintenir la pression haute.
Le problème c'est que je peux difficilement te répondre à cette question. Ouais, parce que ça s'est pas passé comme
non,
ça.
Non, je sais bien.
Je sais pas.
Ouais, alors Lyon qui était sur une bonne dynamique, Lyon qui avait plus perdu depuis le 31 août, hein, il restait sur une série de 6 matchs sans défaite quand même. C'est vrai que là ça s'arrête quand même net, Nicolas.
Surtout qu'il y a une trêve internationale, donc arrêter là-dessus, c'est un peu bizarre, parce que moi je pense qu'on aurait pu on a peut-être pu rebondir la semaine d'après, mais là attendre 10 jours pour revoir la Ligue 1, ça me déprime un peu, parce que c'est vrai qu'on se pose un peu quelques questions quand même. Même si quelque part, si on avait battu Paris ce soir, si on avait fait quelque chose, ça m'aurait gonflé aussi, parce que si on n'est pas capable de battre Nantes ou battre Caen, je vois même pas quoi ça sert
d'avoir
battu
Paris quand même.
Donc c'est vrai que moi ce que je voudrais voir c'est surtout un endroit contre des clubs qui sont accessibles, et après à partir de là on pourra peut-être envisager de faire quelque chose un jour au Parc. Mais là pour le coup, encore une fois, qu'on perde 5-0 ou 3-0 ou 2-0, peu importe, ce Lyon-là pouvait pas battre ce Paris-là, et j'attends pas que Lyon batte ce Paris-là. Moi ce que je veux c'est que Lyon batte les équipes qui sont à leur portée, et c'est ça la priorité je pense.
Ouais. Ouais. Prochain match ce sera Nîmes, hein, après
nul contre Nantes, je veux bien, tu gagnes 3-0 quand même contre Dijon. Alors bon ça a toujours été un mal un peu récurrent chez Lyon aussi, t'as raison, mais
avec Lyon on l'a encore vu en Ligue des Champions mercredi, OK, ça peut créer du danger, ça peut se créer des occasions, ils ont une bonne séquence de 25 minutes comme quand ils réagissent contre le Shakhtar mercredi, mais globalement l'ensemble d'un match de Lyon, on a toujours du mal un peu à comprendre
c'est jamais maîtrisé, un peu
ni queue ni tête quoi. Alors ils sont quand Fekir est là, t'es dépendant de Fekir parce que Fekir il doit être dans l'axe. Donc c'est un 4-2-3-1 que tu peux bricoler en 4-4-1-1 comme ce soir ou comme à City. Et s'il est pas là, que t'es prévenu un petit peu avant, c'est-à-dire que t'es pas tellement pris au dépourvu comme ce soir.
Différemment.
C'est 4-3-3 avec j'imagine une pointe, Traoré en haut à gauche et Memphis qui revient comme il était à l'origine en haut à gauche, et plutôt Traoré en haut à droite. Ce que tu pouvais faire là ce soir finalement. Tu peux
oui, quand, si tu
quand
sais
Fekir,
que
quand Fekir sort, tu peux, alors il choisit Cornet peut-être parce que Cornet il est encore un petit peu en train de manger sur le match à City, mais si tu mets Dembélé, tu pousses Depay à la place machin Traoré, tu ressors ton 4-3-3. Et quand tu es à 11 contre 10, ça a presque encore plus de sens à ce moment-là de le jouer comme ça. Bon, Genesio a pas vraiment fait ça. Moi, je répète, Lyon parfois, je comprends pas. C'est un peu ni queue ni tête, quoi. La façon dont ça joue, tactiquement, le fond de jeu, ce qu'ils veulent proposer. Et quand c'est bousculé, ça part un peu dans tous les sens, ça s'éparpille. Et là, ce soir, quand ils ont pris une claque, deux claques, après, ça s'est enquillé, quoi. C'était fessé, déculotté après, ouais, dans la foulée.
On devrait avoir les réactions d'un moment à l'autre du côté du Parc des Princes,
et
Bruno Genesio et de
baissé debout sur le bureau.
Et de Thomas Torel également. Merci Nicolas, supporter de l'OL, qui nous a appelé au 32-16. Vous réagissez vous aussi également. Vous venez participer au débat avec Daniel Riolo et Pierre Ducrot au 32-16 et via l'application Direct
Studio. Il a dit tiens, je te file le Martinez, tu veux me finir.
N'importe quoi. Allez, à tout de suite pour la suite de l'After.
RMC Football Show, l'After Foot, Nicolas Villas.
En compagnie de Pierre Ducrot et de Daniel Riolo, avec vous également sur l'application Direct Studio, sur le hashtag RMC Live bien entendu, et au 32-16 surtout. Rappelons le résultat de la principale affiche de ce dimanche, le Paris Saint-Germain vient de s'imposer 5-0 face à l'Olympique Lyonnais.
quadruplé de Kylian Mbappé. Ça avait débuté par un pénalty de Neymar. Cet après-midi, Bordeaux s'est imposé 3-0 face au FC Nantes pour la première de Veid sur le banc nantais. Marseille s'est imposé 2-0 face à Caen et Rennes est allé gagner 2-1 face à Monaco. On va faire l'évaluation de ce Paris Saint-Germain-Lyon et on va le faire avec Maxime, supporter de l'OL qui est avec nous. Salut Maxime.
Salut Nico, salut les gars.
Oh, t'as l'air dégoûté mon pote.
Non, ça va, j'ai vu un bon match. Bah, c'est quoi, je vais pas sauter de joie, mais c'est un match au final agréable à regarder, donc voilà.
T'es sûr que t'es supporter de l'OL, toi?
Ben, je suis supporter de l'OL. Ça fait un petit moment qu'on prend quand même des fessées au parc. Généralement.
Résigné, Nicolas. Maxime.
Ouais, non, mais c'est pas ce soir. Lyon a jamais pris vraiment de fessées au parc, hein.
Si, je me rappelle d'un match difficile où, d'ailleurs, je sais pas si on en prend pas 5 ou, Il y a 2-3 ans.
Non, jamais Paris avait battu Lyon aussi largement.
Alors, ou 4 buts d'écart. Enfin, tu vois,
il y a eu un 4-0 il y a deux saisons.
Voilà, c'est ça, tu vois. L'année dernière, effectivement, on fait un bon match.
Tiens, Maxime, on va écouter Bruno Genesio. Il vient d'arriver en conférence de presse, l'entraîneur de l'OL.
En pressant assez haut et en se créant des situations. Malheureusement, contre ce genre d'équipe, il faut concrétiser lorsqu'on a des temps forts. C'est ce qu'on n'a pas fait. Et on sait ensuite que la moindre erreur, la moindre défaillance tactique se paie très cher face à des attaquants avec une telle qualité de vitesse et de déplacement.
Allez, Bruno Genesio en conférence de presse, victoire du Paris Saint-Germain 5-0 face à l'OL ce soir, avec notamment un quadruplé de Kylian Mbappé.
Ni l'un ni l'autre. Je crois surtout qu'il faudra tirer les enseignements de cette défaite, cette lourde défaite, parce que pendant une heure, on a fait quasi jeu égal avec Paris. Mais ensuite, il faut avoir davantage de maturité lorsqu'on est mené 3-0 au parc face à une équipe comme Paris. Il faut arrêter d'attaquer à 7 ou à 8, comme on l'a fait, et libérer les espaces dans le dos de notre défense et livrer notre charnière centrale à elle-même, comme ça a été le cas à partir du troisième but, parce que ça aurait pu faire beaucoup plus cher et il faut apprendre à être, je dirais, beaucoup plus lucide sur la situation. Et je pense qu'à 3-0, il fallait être beaucoup plus prudent que ce qu'on a été et reformer un bloc beaucoup plus dense. Et malheureusement, je pense que c'est aussi le défaut de la jeunesse de notre équipe.
Les propos de Bruno Genesio à l'issue de la défaite 5-0 au Parc des Princes ce soir. Bruno Genesio qui est en direct en conférence de presse.
Si, certainement aussi, parce qu'on a fait beaucoup d'efforts pendant une heure, mais justement, lorsqu'on a encaissé le troisième but, je pense qu'il aurait été plus judicieux de se replacer un peu plus bas, de former un bloc plus bas. Ça nous aurait permis de faire moins d'efforts et puis surtout de laisser moins d'espace à cette équipe de Paris qui s'est régalée sur des contre-attaques avec des attaquants comme Neymar et Mbappé.
Merci beaucoup Bruno Genesio pour cette réaction, c'était en direct. On était avec Maxime, supporter de l'OL, pour faire l'évaluation de ce Paris Saint-Germain. Lyon, tiens, j'étais en train de regarder l'historique des rencontres entre le PSG et Lyon, tu disais, 4-1. On a l'habitude, alors il y a eu un 4-1, mais c'est Trophée des Champions.
Oui voilà, août 2016.
Un peu plus vieux, 2015, en Coupe de la Ligue, 5-1 pour le Paris Saint-Germain.
Voilà.
Un peu plus vieux encore. 2013, championnat, victoire 4-0 du Paris Saint-Germain. Voilà, le 1er décembre 2013.
Ouais, ça remonte.
4-0 pour le PSG.
Déjà, c'est 2013.
Ouais, ouais, ça remonte. Ça passe vite, hein. Il y avait eu un 4-4, le fameux 4-4 de 2012.
Ouais. C'est à Gerland, ouais.
Voilà, ça c'était autre chose. Exactement, oui, exact, à Gerland. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de buts, hein, ces dernières années, hein, finalement, entre ces deux équipes, hein. Bon, bref, qui est ton cador ce soir, Maxime?
Bah, cador, on va avoir du mal à en trouver du côté de l'OL. Moi, j'ai trouvé que, au-delà, évidemment, du quadruplé évident de Mbappé, je trouvais que Neymar dans le jeu était super, dans l'attitude hyper positive. Pareil, il est dans une séquence là, intéressante de sa saison où il peut relancer un truc. Je pense que les critiques après son match à Liverpool l'ont peut-être un petit peu réveillé et là il est sur une phase intéressante. Donc bon match.
Entièrement d'accord. Bon match, et moi je rajouterais à tout ce que vient de dire
Maxime,
l'efficacité. Parce que je l'ai trouvé très efficace dans le jeu, dans ses choix, il n'y a pas eu de superflu.
Alors est-ce que tout le monde est d'accord pour mettre Neymar homme du match, sachant que Mbappé met quand même un quadruplé ce soir, c'est le plus jeune joueur de Ligue 1 depuis 45 ans.
C'est le cador là.
Pour Statopta qui vient de tomber. Ouais.
Neymar.
Neymar aussi. Moi aussi je suis d'accord.
Messieurs, qui pour vous est le pied carré de ce PSG Lyon?
Ah, moi j'en ai un, Nico.
Moi aussi je crois que j'ai le même. Vas-y.
Ouais, bah moi aussi peut-être.
Non mais alors toi Nico, je sais que tu vas me dire Maxwell Cornet.
Bah ouais.
Mais moi si non. Tu veux, alors bien sûr, donc je te le mets aussi, mais j'en ai un autre qui a joué 40 minutes, Mais c'est tout zard, quoi. C'est un vrai problème, c'est-à-dire que son match déjà à la base est pas bon. Ces 40 minutes sont vraiment à l'envers. Au-delà de ça, je trouve qu'il est franchement sur. Il y a une espèce de hype autour de ce joueur qui est un joueur assez moyen en fait, qui est loin de ce que pouvait produire Gonalon quand.
Mais tu sais pourquoi en fait, Maxime, je vais te dire. Par exemple, souvent on parle de Lyon. C'est un joueur dont on parle peu. Et Touzard, en fait, c'est tellement un bon gars. Il y a des mecs comme ça, je dois avouer, dans les médias, c'est comme ça. C'est quand un mec est.
Est-ce que c'est un chouchou pas bon, Daniel?
Est-ce que c'est un chouchou pas bon? Je sais pas si dans cette catégorie, c'est au Lyonnais qu'il faut demander, mais je suis même pas sûr. En fait, le mec, donc, respecte en fait le jeu, c'est-à-dire qu'il donne tout. Ensuite, à côté, c'est un mec franchement super quand tu l'entends, tous les gens le connaissent, extraordinaire. Et ce qui fait qu'on oublie, et là t'as raison, d'aller à, parce que les analyses parfois c'est, en plus il a un rôle où souvent on parle plus des défenseurs, des attaquants que des mecs qui sont à ce poste-là. Et souvent
il passe
un peu au travers.
Les analyses.
Mais je crois que t'as dit vraiment les mots justes. C'est très rare qu'on s'arrête sur Touzard. Alors s'il faut s'arrêter deux secondes, en fait t'as raison. Touzard c'est un joueur moyen. Et c'est joueur moyen qui, à dire la vérité, dans le Lyon des années 2000, non seulement il a pas sa place,
mais à chaque fois je cite dans le Lyon des années 2000,
parce qu'à chaque fois je cite l'exemple de, parce que j'aime bien cette histoire de Balmont qui dit moi je me suis barré parce que j'aurais pas eu ma place et humblement j'ai pris la porte et je suis parti. Bah en fait Touzard il est pas meilleur que Balmont par exemple.
Absolument d'accord.
Balmont c'est un mec qui a valeur, tu vois, hop, c'est plus fort.
Complètement.
Donc si aujourd'hui il est titulaire à Lyon, ok, et ça lui arrive de faire des bons matchs. Mais c'est un joueur moyen bon, et t'as raison de dire que Gonalon était meilleur, et pourtant Gonalon, c'était pas un crack non plus.
Si tu veux, le niveau moyen de Gonalon, même sur une saison qui n'était pas bonne, par exemple, restait, si tu veux, au-dessus de ce que peut produire Touzard, dans le sens où c'était quelqu'un déjà qui dégageait quelque chose vis-à-vis de l'adversaire. Gonalon, c'était quand même quelque chose en termes d'expérience, etc. C'est le capitaine de l'OL, mine de rien, depuis des années. Ce que je veux dire simplement par rapport à Touzard, l'idée, c'est pas de lui tirer dessus comme
ça. Exactement.
D'en faire une chèvre. Ce que je veux dire simplement, c'est que ces lacunes qui étaient acceptables, si tu veux, à partir du moment où on l'a installé dans l'équipe et qu'il était jeune et qu'on faisait un pari, si tu veux, sur le joueur, très bien. Sauf qu'on n'est plus sur ce statut-là et on est en fait sur un mec qu'on ne remet plus en cause. C'est un vrai problème parce que c'est un joueur qui est un peu moyen, qui se débat avec ses qualités. Et je pense que c'est un peu court. Mais
ouais. Alors du coup, on met qui alors en pied carré sur ce match-là?
Parler
un mec qui rentre en cours de jeu, qui se fait sortir avant la fin quand même. C'est
il rate une balle de but.
Et je sais pas si ça peut compter, mais une sortie comme fait Lopez et qui te met
Lopez, Lopez, le péno qu'il donne. Déjà, on repense à la faute sur Mbappé l'année dernière au Parc OL où vraiment c'était 100 fois péno. Déjà, c'était une sortie débile.
La stupidité,
mais alors,
de la
celle-là,
sortie, en fait.
Je
suis pas loin de
lui
attribuer à lui, moi. Parce que c'est la première des erreurs.
C'est main carrée.
Ouais, c'est pas le pied, mais.
Non, mais celle-là, elle est importante. Tu démarres le match à 0-1 à cause d'une sortie absurde.
Dans une période où t'es un peu mieux, en plus, normalement.
Qui pour vous a été le taulier de ce PSG Lyon?
Taulier, le match que fait Thiago Silva est très, très important ce soir.
Moi, je mettrais Thiago Silva aussi. Tu mettrais qui, toi, Maxime?
Ouais, Thiago Silva, et je sais pas, Mbappé, on va le citer quand même un moment.
Le problème, c'est que si tu donnes le cador à Neymar, il reste plus grand chose, Le taulier à Silva, tu veux donner quoi?
Je sais pas.
C'est cette catégorie, là, cador, taulier, moi, j'ai toujours pas compris, les gars. J'avoue que il y a la différence.
Bah, cador, c'est l'homme du match, le taulier, c'est le taulier. C'est-à-dire, c'est le mec, quoi qu'il a là, c'est lui le boss, quoi, tu vois.
Quatre buts, taulier, et on ferme la boutique, c'est quoi cette histoire-là? Et Mbappé, les amis, on va quand même le citer, hein.
Ouais, c'est pas con, ce qu'il dit. C'est acceptable.
Bon.
C'est vrai que ça fait bizarre de pas mettre Mbappé quand même.
Oui, c'est vrai.
Bon, ouais, vas-y, on met Mbappé en taulier. Après, on aurait pu mettre Neymar en taulier et Mbappé en cador. C'est même plus logique d'ailleurs.
Oui,
c'est lui la star aujourd'hui du match.
Ouais. Est-ce que c'est très important ça?
Non, mais c'est important. Écoute,
franchement, on s'en fout un peu.
Les mots ont un sens, Daniel.
Moi, je vous laisse faire. Franchement, ces petites catégories.
On termine
là,
avec le Casper. Qui est pour vous le Casper de ce match?
J'en ai un.
Alors, vas-y.
Traoré, qui fait pas un bon match.
C'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu.
Qui perd beaucoup de ballons, qui fait des mauvais choix aussi. Traoré.
Ouais. Il s'est souvent activé dans le vent. Effectivement.
Traoré. Merci Maxime d'avoir été avec nous.
Salut les gars.
Bonne soirée Maxime. Ciao, Maxime. À très bientôt.
Casper, on aurait pu voir Morel aussi, dont on a vu beaucoup le numéro. mais pas trop le visage.
Info qui a été annoncée par Bruno Genesio en conférence de presse, que Nabil Fekir est sorti sur blessure à la 7e minute de jeu, entorse de la cheville, il sera forfait pour les matchs de l'équipe
de France. On était sûr à 200%, ce qui va falloir voir si c'est une belle entorse ou une petite entorse surtout quoi. Ouais. Combien de temps. Voilà, c'est ça qui va être intéressant, non, important de savoir.
Messieurs, autre résultat également de l'après-midi, match entre Monaco et Rennes. Rennes qui est allé s'imposer 2-1 face à Monaco. Alors Monaco qui a plus gagné depuis la première journée. 10e match d'affilée sans victoire pour Monaco, toutes compétitions confondues. Monaco qui est 18e à égalité de points avec Nantes. Ils comptent 6 points. Ils ont 4 points de retard déjà sur la 17e place, les Monégasques et les Nantais. Donc, qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce match finalement et de ce résultat aussi pour l'ASM?
Moi, je retiendrai une chose, c'est que en plus des difficultés qu'ils avaient tactiquement, les absents, le manque de cohésion de cette équipe, mais ce qui appartient finalement ou ce qui est Monaco à chaque début de saison quasiment depuis 4-5 ans maintenant. Là maintenant, je commence à m'inquiéter. Vous savez qu'il y a encore 3-4 semaines, j'avais même fait un avis tranché là-dessus. Je disais, Jardim va encore réussir à faire ce qu'il faut. Là, ce qui m'inquiète, c'est que ils ont non seulement aucune réussite.
Ils jouent longtemps à 10 contre 11. Radji a été exclu en
première période. C'est pas de la réussite. Radji, c'est de la bêtise.
Qu'est-ce que tu veux dire? Il prend rouge parce que son geste est débile.
Il met les siens dans
le désarroi de cette équipe en ce moment.
En plus de ça, quand je parle d'un manque de réussite, c'est pas Radji, parce que Radji, c'est son problème. C'est lui qui est stupide sur le coup. Mais ils ont pas de réussite dans le jeu, dans des faits de jeu. Ça tourne jamais pour eux. Et en plus, maintenant, j'ai l'impression que mentalement, dès qu'il se passe un truc, ça lâche. Et ça, par contre, c'est plus problématique.
Tiens, juste quelques petites stats comme ça. Aucune victoire à domicile cette saison pour Monaco en 6 matchs, hein, toutes complètes confondues.
Ils ont gagné nulle part.
Ils ont gagné un match, quoi.
Je pense que là, ils sont vraiment dans le trou. Ils sont pas loin du caniveau, là.
Ils sont dans le dur.
On va accueillir Mathieu, supporter de l'ASM, qui nous a appelé au 32-16. Salut Mathieu.
Salut les gars.
Salut Mathieu.
Bon Mathieu, tu commences à t'inquiéter ou pas, là? Pas plus que ça encore?
Non, moi je suis inquiet depuis déjà 4-5 matchs, quoi. On va dire, franchement, c'est catastrophique. Après, voilà, les dirigeants, ils peuvent s'en prendre aussi qu'à eux-mêmes, quoi, parce que à force de vendre et de racheter des joueurs de Strasbourg, de Troyes, de Caen, etc., au bout d'un moment, ça finit par se casser la gueule. Et,
ouais, après, ils peuvent aussi se faire une saison comme ça, entre la 10e et la 13e place ou 7 et 13 et puis voilà.
Et puis l'année prochaine,
et je vais remettre en avant le business l'année prochaine.
Hein. Ouais, voilà.
Non, mais là c'est pas ce qu'ils attendaient, hein, crois-moi.
Ça va pas mettre la boutique en péril, hein.
Dans le système un peu économique qu'ils veulent faire marcher,
aucun problème.
Ce serait une année de transition, avec ce qu'ils ont pris,
ils peuvent se faire deux saisons tranquilles.
Là cette année, on joue le maintien.
Même plus, hein, il peut très bien s'en aller. Il peut même s'en aller dès maintenant et même se faire 10 saisons comme ça.
Ça fait un moment qu'il y a des rumeurs de volonté de vendre
départ par Moribo. Oui, là, je pense qu'il s'en fout. Maintenant, il va se barrer et puis c'est tout.
Il y a un peu de ça. Ouais. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'inquiète le plus, toi, du coup, Mathieu, à Monaco?
Moi, ce qui m'inquiète, c'est que voir un entraîneur comme Jardim être ne plus avoir de solution, c'est-à-dire vraiment ne plus trouver la solution ou la bonne formule pour essayer de gagner. Même sans la réussite, je trouve ça problématique parce que encore il y avait des matchs où Monaco passait complètement au travers et lui avait le coaching payant, avait la petite solution, la petite touche Jardim pour gagner les matchs. Là aujourd'hui, je le vois complètement paumé en fait. Et c'est là où c'est problématique, c'est que c'était le maître du jeu Jardim. Aujourd'hui, c'est le maître de rien du tout et l'équipe est catastrophique, quoi. Je pense que pour moi déjà on n'a pas de milieu de terrain. Aoulou, merci, bonne journée. Tu peux rentrer à Strasbourg. Ça m'a fait plaisir de te connaître. Et puis voilà. Puis les autres, pareil, quoi. Franchement, c'est de pire en pire. Il y en a marre, quoi. Je veux dire, les mecs, il y a pas d'engagement.
À la limite, Max, j'en voudrais peut-être presque moins à Oulu, moi, qu'un Tillmans qui est là depuis un an et qui maintenant devrait quand même, à un moment donné, montrer autre chose.
Il devrait avoir un certain statut déjà, normalement.
Et puis montrer autre chose que ce qu'il montre. Effectivement, c'est ce garçon-là qu'on attend un peu plus, quoi.
Il se fait assez taper par le public monégasque, même s'ils sont pas nombreux à Monaco. Il se fait énormément taper par le public monégasque, il est tout le temps sifflé, etc. Moi, je trouve qu'il est pas si mauvais que ça. Il essaye de donner pas mal. Sur l'engagement, il est quand même présent. Je veux dire, comparé à Oulu qui est complètement transparent, lent et qui regarde les ballons passer. Jemerson, c'est la même chose, je le mets dans la même catégorie.
Ah, Jemerson, c'est peut-être le pire depuis le début de saison.
Ouais, tu sais, au bout d'un moment, c'est un peu comme les grands clubs qui enquillent les victoires pendant des années. À un moment, t'es gavé et il y a toujours des périodes de décompression où il se passe plus rien parce que c'est dur d'enchaîner. Monaco, ils se sont gavés à un autre niveau. Ils se sont gavés parce qu'ils ont fait des saisons remarquables par rapport à justement leur business plan. Tout le monde s'est gavé, tout le monde a croqué dans des transferts astronomiques. Là, tout le monde s'est bien rincé comme il faut. Jardim est l'entraîneur le mieux payé de la Ligue 1. Il fait des années où à chaque fois faut qu'il trouve des solutions dans tous les sens et ça a toujours souri pour lui. Cette année même, t'as vu, il met le costard en plus. Peut-être que lui aussi il est fatigué. Peut-être que lui, il est un peu là d'essayer de trouver des solutions, qu'il en trouve plus, que le système l'a usé et que sans même s'en rendre compte, parce que c'est un mec heureux, même si les résultats sont pas là en ce moment, il vit très bien, lui, sa famille.
Ah bah lui, il aime sa vie à Monaco, ça c'est
tout,
sûr.
Tout va très bien, voilà, à Monaco, peut-être que tout le monde s'est trop gavé, quand t'es repu, après tu te mets sur le canapé, tu fais la sieste. La sieste de Monaco, peut-être elle va durer un petit peu de temps maintenant.
Il y a une petite stat également qui finalement illustre à quel point Jardim essaye de trouver la solution. Je sais pas si vous l'avez vu défiler, c'est une stat du CIUS. L'observatoire du foot, Jardim est l'entraîneur dans le Big Five européen qui a utilisé le plus de joueurs depuis le début de saison. 27 joueurs devant Frosinone, Bordeaux et le Paris Saint-Germain.
Il n'y a pas que le fait de chercher des solutions, il y a aussi qu'il
y a les blessés aussi.
Particulièrement, pas aidé avec beaucoup de blessés.
Oui, mais la conséquence, c'est qu'il est obligé de trouver des solutions face à ses absences également.
Il va falloir en trouver encore parce que Radji qui est suspendu. Ouais.
Un petit mot sur Rennes quand même aussi, qui était sur une sale série, 4 matchs en
victoire. Vous avez l'impression aujourd'hui que Rennes fait un meilleur match que Monaco, honnêtement ?
Non, franchement.
Les deux étaient mal en point, c'est entre deux blessés,
t'en as un qui sent un peu mieux tiré. Tu te dis, c'est reparti, mais
Ben Arfa a mis une grosse frappe cadrée que Subasic a laissé passer.
Il y a les deux, il y a lui qui frappe et l'autre qui...
On rappelle les buteurs, Damien Da Silva, Falcao égalisé.
À ce niveau-là, la frappe, ok, je veux bien la souligner, mais c'est l'erreur du gardien. C'est à cause du gardien qui a buté, franchement.
Ouais, Subasic,
Même Jean-Louis Tour, il la sort, celle-là.
C'est dire. Merci Mathieu de nous avoir appelé. À bientôt Mathieu.
Merci les gars.
Je t'ai appelé Maxime tout à l'heure, moi Mathieu. Désolé.
La soirée des blases, toi.
Pourquoi?
Je sais pas, tu te plantes avec tout le monde.
Non, je me suis planté qu'avec Mathieu.
Voilà. Merci Mathieu.
Merci les gars.
Salut.
Ciao, tout le monde.
Supporter de l'OM, supporter de Caen, on vous attend au 32-16 dans quelques instants. On va revenir sur la victoire de l'OM 2-0 face au Normand. Marseille qui est troisième ce soir et à l'issue de cette 9e journée de Ligue 1. On y revient dans quelques instants avec Pierre Ducrot et Daniel Riolo.
RMC Football Show. L'afterfoot, Nicolas Villas.
Avec Pierre Ducrot et Daniel Riolo, vous le savez, dans un quart d'heure, il y aura le RMC Poker Show dans la foulée avec Daniel Riolo et avec Moundir qui est déjà très chaud. Il est en train de s'échauffer en backstage, il est déjà bouillant le mec. On a parlé de la victoire du Paris Saint-Germain ce soir, 5-0 face à l'Olympique Lyonnais. Le succès de Rennes, 2-1 face à Monaco. Autre résultat important cet après-midi, Marseille s'est imposé 2-0 face à Caen. Mitroglou a marqué le premier à la 36e. Thauvin à la 44e, résultat qui permet à Marseille d'être 3e au classement avec ce résultat. Marseille qui restait sur ce 2-2, très frustrant finalement face à l'Apollon Limassol en Ligue Europa jeudi dernier. Et Marseille qui restait également sur une défaite en championnat et qui se relance donc et qui est 3e de Ligue 1. Sont là les Marseillais.
Exactement, comme disait tout à l'heure Pierre, les Marseillais qui ont perdu contre Lyon et ça fait toujours mauvais genre, c'était la semaine dernière et ça met une claque pas agréable à recevoir. Dans la foulée, tu fais un sale match à Limassol parce que la fin surtout était pas que frustrante, limite un peu honteuse. Là, tu gagnes un match, c'est logique, il y a rien à dire.
C'est mérité, c'est logique, maîtrisé.
C'est le match de championnat pépère que tu plies, que tu dois gagner parce que t'es supérieur à ton adversaire. Il y a pas d'histoire. Il y a l'événement de pas prendre de but.
C'est seulement le 3e clean sheet de Marseille cette saison.
Et vu les récentes sorties de l'OM, ne pas prendre de but, c'est déjà un truc à souligner. Pour le reste, t'as dominé pépère ton match. Je pense dans deux semaines, allez même pas la semaine prochaine, tout le monde aura oublié contre qui a joué l'OM ce week-end. Mais ils avaient besoin, avant de partir là avec la petite trêve, vraiment besoin de cette victoire.
Tu retrouves un milieu, ça, tu retrouves Rami. Ça te permet de tranquillement pouvoir réintégrer des choses.
Là, au moment où t'as la trêve, si t'as Rami qui peut encore se requinquer bien comme il faut. Camara est en train peut-être de gagner sa place hein, petit à petit mine de rien. Lui, il est
et pour moi,
le petit gars. À chaque fois qu'on le voit, il est bon. Hein. Ouais, mais enfin, c'est normal que c'est pas le petit gars que tu mets en avant. Normalement, t'as pris des mecs, t'as dépensé de l'argent pour prendre des gars. C'est aux autres gars que tu dois faire confiance d'habitude.
Ouais, mais sauf que là parce que
Rami, t'as aucun entraîneur qui met le gamin alors que t'as mis 12 millions sur un mec.
Bah ça dépend. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui mettent beaucoup d'argent, ils attendent avant de les lancer justement.
Le Daniel, il y avait personne au départ. Rami pouvait plus jouer, donc tu pouvais très bien mettre ta recrue à 12 millions et le petit Camara et Luis Gustavo au milieu.
Après, ça change tout si tu peux mettre Strootman, Luis Gustavo au milieu.
Bah, bien sûr.
Voilà, l'équipe de l'OM, elle va reprendre forme.
À ma vie, il en est où?
À ma vie, peut-être qu'il en est un peu nulle part, parce que c'est vrai qu'il est un peu il est un peu au fond du seau.
Parce que pour moi, c'est ce qui va manquer la prochaine.
Saka, il fait toujours le truc à gauche, quoi. Ça va.
Oui, mais
c'est pas.
Il fait le truc. Je suis d'accord avec toi, sauf qu'il le fait encore mieux à droite et que tu le prives d'un joueur qui est costaud à droite.
Je préfère mettre Saka qui fait le truc plutôt qu'à ma vie qui se trouve un coup sur deux.
Hein. Et pour ça, je te demande où on est à ma vie, parce que ça serait bien qu'à ma vie retrouve son niveau de la saison passée.
Le plus important,
jouer avec un vrai latéral gauche en forme et bon.
Le plus important. C'est l'axe du terrain, tu le sais. S'il retrouve une charnière, le milieu de terrain, on va dire l'axe du jeu, là, le cœur du jeu. Je pense que l'OM ces derniers temps, ils ont aussi beaucoup souffert de leurs absences, de mecs en méforme.
Oui, ils ont dû bricoler. Ouais.
Après cette trêve-là, peut-être qu'on va retrouver un OM un peu plus qui va ressembler un peu plus à celui de l'année dernière.
En tout cas, ils ont passé une période difficile.
Exactement.
Et ils sont là.
Et ils sont devant Lyon. Ouais. Au classement, et ils sont podium.
Ouais, deux points d'avance, on le rappelle, hein, sur l'Olympique Lyonnais pour les Marseillais, qui sont égalité de points, hein, avec Montpellier également, les joueurs de l'OM. On va accueillir Guillaume, supporter marseillais, qui nous a appelé au 32-16. Salut Guillaume!
Oh la vie, va, bonsoir tout le monde.
Ça va Guillaume?
Salut Guillaume.
Ça va, impeccable.
Bah ça a l'air, mon gars. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce match face à Caen?
Bah, c'est un match moyen contre une équipe moyenne, c'est pas grave, voilà, dans l'ensemble, hein, je parle des 90 minutes. Après, quand j'ai vu, voilà, ça caille toute la deuxième mi-temps, enfin, quand il a joué à gauche, je sais qu'il n'y a pas de jeu, tout se développe toujours sur la droite, sur l'OM, parce qu'il s'entend super bien avec Thauvin. Enfin, Camara est en défense centrale depuis 5 ou 6 matchs. Alors, je sais pas s'il était blessé ou s'il était pas disponible ou s'il y avait des contrats parce qu'il est jeune, donc je sais pas, j'en sais rien. Mais c'est le meilleur depuis, à chaque fois qu'il a joué, ça a été le meilleur en défense centrale. Enfin, Luis Gustavo est au milieu de terrain. Et quand Caen a essayé de mettre le pied en deuxième mi-temps, bah, Strootman et Gustavo, ils ont dit, bah, c'est nous les patrons et voilà. Et ça a pas bougé au milieu de terrain et voilà. Et je pense que la deuxième mi-temps moyenne dans l'ensemble, sur ce que j'ai vu, elle a été moyenne parce que Marseille avait peur de prendre un but et avait peur de retomber dans ses travers. Mmh. Donc il fallait qu'il se rassure aujourd'hui. Et voilà quoi. Pour nous marquer un but, quand il fallait qu'il y ait 3 mecs qui chargent Mandanda et qu'il y ait un but de la main. Donc il n'y avait pas trop d'inquiétude quand même.
Moi, j'aime bien le calendrier de Marseille à venir, là. Je sais pas si vous avez jeté un œil, mais prochain match à Nice. Ensuite, il y aura le match contre la Lazio à domicile en Ligue Europa.
Après, ouais, le PSG.
Après, ils vont au Parc.
Match à Montpellier. Non, ils reçoivent le PSG.
Pardon, face au
Paris Saint-Germain.
Et ensuite, ils reçoivent la Lazio. C'est énorme.
Et ouais, ils vont
Il y a un match contre Montpellier aussi.
Exactement. Après le PSG, ils reçoivent et ils vont à Montpellier.
Montpellier, c'est une sacrée équipe difficile à battre.
Eh oui. Ils sont égalité de points, on le rappelle.
Non, mais t'as raison.
Ça aura peut-être bougé d'ici là. Il est bouillant celui-là. Il est
pas. Aller à Nice, c'est pas facile. Recevoir la Lazio non plus. Recevoir le PSG non plus. Aller à Montpellier, costaud.
C'est le Nice d'il y a deux saisons.
Non, mais enfin, t'as raison. Dans les cinq matchs qu'on vient de citer, c'est peut-être le plus facile encore. Mais
Balotelli va marquer, mais il y aura 2-1 ou 3-1 pour l'OM, je pense, à un moment donné.
C'est marrant, voilà, comme tout le monde a acquis le fait que Balotelli allait marquer.
Non, mais entre les deux formations, il y a quand même une grosse différence. C'est-à-dire, si Dijon, je crois, je sais plus si c'est Dijon ou Reims qui en a mis 4 à Nice, je pense que...
Non, voilà, non, mais ça n'a rien à voir, là. Tu te réfères à un match, de tout début de saison et tout. Franchement, Nice, c'est mieux que ce qu'il y avait au début et je pense qu'ils peuvent encore s'améliorer. Et par exemple, ce week-end, Nice, ils font match nul, on est d'accord, c'était le match de vendredi. Franchement, revoit et tout, c'est un match qu'ils peuvent gagner.
C'est un match qu'ils doivent gagner.
Ils ont encore des absences offensivement, mais bon. Bon,
c'est
voilà,
un peu un match bizarre comme ce soir. Il y a des occasions dans les deux sens. C'était bizarre aussi. Ouais. Mais oui, on va.
Les sous-estime pas trop non plus, voilà.
Ah non, je sous-estime pas. Non. Mais c'est comme quand, faut le gagner le match. Hein. C'est toujours pareil. Si on perd 1-0 ce soir.
Non, je te dirais, avant la rencontre, je te dis tranquille, l'OM Bacan, Nice, oui, mais.
Moins tranquillement.
Ah voilà. Non, bien sûr, moins tranquillement. Mais bon, on a un beau mois d'octobre et un début de mois de novembre qui va être sympa.
Et bah écoute, on se rappelle au mois d'octobre et au mois de novembre.
Bah, avec plaisir.
Salut Guillaume, merci d'avoir été avec nous.
Ciao Guillaume.
Bonne soirée Guillaume. Et enfin l'autre résultat de ce dimanche, Bordeaux s'est imposé 3-0 face au FC Nantes. Caramo et Camano par deux fois ont marqué les buts des Bordelais. C'était la première de Vaïd sur le banc du FC Nantes.
Ils ont pas encore bien compris les consignes.
Non, visiblement non, puisqu'ils en ont pris deux au bout de deux minutes de jeu. Et du coup, Vaïd, il était un peu comme ça quoi.
Hier soir, quand j'entrais chez moi, je vous dis franchement, j'ai vomi.
Voilà, ça c'était la réaction de Vaïd, mais c'était déjà il y a quelques années. Ouais. Après cette défaite 3-0, il a employé des mots très très forts. Écoutez-le, Vaïd Halilhodžić, en conférence de presse. Et je veux vraiment vous entendre là-dessus, parce qu'il est carrément défaitiste, le Vaïd.
On était dominés sur tous les plans. Et physiquement, et tactiquement, individuellement, collectivement. C'est pas la même chose. Constat est un petit peu terrible. Il faut que tout le monde est conscient. Il nous reste un travail vraiment énorme, énorme. Situation aujourd'hui, on est 19 et on est l'équipe de deuxième division. Il faut que tout le monde sache, ben on est mauvais. On va voir quelques mois assez difficiles.
Voilà, on est mauvais.
Alors là, le mec, il s'est installé.
Ah, mais dans le rôle du sauveur.
Dans sa communication. Il s'est installé dans le rôle. C'est catastrophisme, il faut se serrer les coudes parce que de toute façon c'est son management qui est comme ça et sa tactique va l'être également et c'est on joue le maintien.
Ouais, puis moi
non, mais attends,
même,
au-delà de ça, le message que t'envoies aux joueurs,
on va jouer le maintien, donc ça justifiera la tactique défensive, ça va justifier la communication, genre on est mauvais et
les décisions que je vais prendre dans peut-être
les décisions
du groupe.
Le monde va nous en vouloir, tout sera contre nous.
Moi je pense qu'il y a une
c'est
communication
ça, en fait.
Aussi pour
oui.
annoncer que si ça se passe mal,
de toute façon,
déjà,
il est comme
parce
ça.
Que il a récupéré le truc, c'était presque
il est
déjà
comme
trop
ça.
Tard.
Il est comme ça, on
et
sait.
Et que si ça marche, c'est un héros.
Donc voilà, les Nantais maintenant, il faut qu'ils s'attendent à souffrir, quitte à au prétexte ou à l'excuse ou à la justification que c'est son blé qui fait ce qu'il veut avec. Eh ben, il va jouer le maintien cette année et s'il a pas de bol, il va même jouer en Ligue 2 l'année prochaine. Parce que les décisions à la con, ben, à un moment, faut les assumer. Des fois, il en a pris des bonnes, je l'ai dit, quand il a fait appel à ton compatriote, quand se sent. Et ensuite Ranieri, parce qu'on peut me dire que Ranieri c'était pas ouais mais enfin bon c'était plutôt
mais même Cardozo, moi je reste persuadé que Cardozo avec
bien sûr fallait le garder,
mais bien sûr,
mais bien sûr qu'il fallait garder,
en plus c'était peut-être celui qui
fallait
correspondait le plus à ce
exactement.
Qu'on attend de Nantes,
exactement, donc
attends vous avez réécouté, il y a des clips qui ont été faits sur les réseaux sociaux par des supporters de Nantes sur les avec les déclats de Kita lorsqu'il a nommé Cardozo, tout ce qui est philosophie de jeu, faudra lui laisser du temps, soyez pas trop dur avec lui machin et tout, et puis finalement
comme il avait pris pas mal de bonnes décisions là sur quelques années, Kita il s'est dit ça va pas, il faut que je recommence à en prendre des
c'est
mauvaises.
Plus moi.
Donc c'est plus moi. Donc je vais un peu saccager l'affaire là, puis on va voir si on jouerait pas le maintien par hasard parce qu'on s'est sauvé un peu trop facilement ces dernières années là. Il y a même un moment on a flirté avec la 5e place, donc on va rapidement redescendre dans le bas et donc le club est un peu dans la merde maintenant. Et Vaïd dans ce rôle de nous contre le monde entier, moi je vais essayer de faire ce que je peux, on est mauvais machin, bah il va jouer le maintien.
Non, mais attends, est-ce que quand on est joueur, ça c'est pas, enfin il vient d'arriver. Rongier a dit on a été agréablement surpris, etc.
Non, mais je pense que Cardozo
chose.
Devait leur dire vous êtes pas mal,
continuez
à jouer.
Non, mais il faisait l'inverse.
Maintenant ils vont avoir un entraîneur qui fait les gars, mais en fait vous êtes mauvais.
Non, mais tu sais ce
et donc il va falloir se battre.
Tu sais ce qui est assez terrible, c'est que tout ce que tu as fait là pendant 4 mois quasiment, si tu comptes la période de reprise, d'un seul coup t'as un coach qui arrive et qui balaye tout en fait. Tout ce que vous avez fait. C'est de la merde parce que on est zéro, il y a rien à garder.
Voilà.
C'est assez terrible, hein. C'est assez terrible parce que tu peux me dire que tout ne marchait pas bien du côté de Nantes parce que tout n'était pas encore parfait.
Mais
on
y avait
est d'accord.
Des pistes.
Mais voilà, il y avait des pistes et puis il y avait certaines choses qui étaient pas mal quand même.
Bien sûr.
Faut pas tout jeter.
Parce que quand t'es
là,
Nantes avec l'effectif et l'entraîneur, tu pouvais légitimement espérer dans ce championnat laisser Guingamp, Dijon, Reims, Caen, Nîmes, Amiens derrière toi, quoi. Tu vois.
Tu luttais
les prochains adversaires de Nantes. C'est Toulouse, Amiens, bon Montpellier en Coupe de la Ligue et Guingamp justement.
Bon, va falloir prendre des points.
Ils sont à un point devant Guingamp, on rappelle.
On va prendre des
Nantes
points.
Et 19e. On accueille Patrick, supporter des Canaries, qui nous appelle au 32-16. Salut Patrick.
Ah, bonsoir messieurs.
Yes,
bonsoir
Patrick.
Comment
est-ce
il
que
va
tes amis t'appellent Pat ou Patoche
ou Patou?
C'est Patrick tout simplement.
Patrick, ça
pas d'amis.
Patrick, ça fait diminutif toujours.
Non, j'ai pas d'amis, j'ai vous comme ami. Heureusement vous m'appelez.
Bon, moi je t'appelle Patou alors.
Bon, raconte Patrick.
Bah Patrick, il serait tenté de vous parler d'un scénario à catastrophe annoncé. De toute façon, déjà l'entraîneur Cardozo, pour moi, n'était pas forcément l'homme de la situation. Il est parti, il a fait ce qu'il a pu, bien ou pas bien. Pour avoir vu tous les matchs de préparation amicaux, on pouvait déjà commencer à se poser des questions très très sérieusement sur le recrutement, sur la façon de jouer. Le recrutement, pour moi, il est pas merveilleux. Je dirais même qu'il est plutôt très très moyen. Comme on avait déjà des joueurs l'année dernière de la saison moyenne qui sont encore là, bah, ça fait une équipe, je vais me répéter, moyenne. Et quand elle n'est pas au niveau, elle est en dessous de tout. Déjà au deuxième ou troisième match, je crois que c'était contre Caen, j'avais eu l'occasion de vous avoir. Je vous avais laissé entendre que j'avais des gros doutes sur l'avenir du Football Club de Nantes dans les semaines à venir. Les doutes se confirment. Alors pour l'instant, il y a encore des moyens de s'améliorer. Vaïd vient d'arriver, on va pas lui demander. De toute façon, qu'on aurait gagné à Bordeaux, ça aurait pas changé la donne. Le boulot, il était le même. Et quand Ali Ozic annonce qu'il trouve un effectif mentalement, physiquement, bon, ça je sais pas, mais tactiquement qui est pas au niveau, pour moi, au vu de tous les matchs du club que j'ai vu cette saison, tous les matchs de Ligue 1 et les matchs de préparation, il a complètement raison. Et il sera peut-être fait obligé de rectifier le mercato cet hiver, comme l'avait fait Saint-Étienne, je crois que c'est la saison dernière, parce qu'il s'était mis en difficulté dans le début de championnat. Et aujourd'hui, quand je vois déjà des équipes comme Dijon, comme Amiens, qui sont déjà à 4-5 points de nous, je prends quand même un petit peu peur. Mais tout ça, c'est la politique qui t'a. Je suis désolé, on en revient toujours au même truc. On va prendre des joueurs étrangers un peu partout. On veut pas de joueurs français, pas de joueurs de Ligue 2. On prend des entraîneurs qu'on passe passer comme le cas de Cardozo. Et ben, on paye le résultat, on paye la facture aujourd'hui. Enfin, lui il va payer la facture aujourd'hui. Ouais. Nous, on va pleurer. Lui, il va payer financièrement.
Eh ben, écoute, le message est passé, Patrick. Eh, courage, Pat. Patoche, Patrick, comme tu veux.
Il va y en falloir. Hein.
Comment ?
Il va y en falloir, du coup.
Ah bah ouais, mon pote. Bah ouais, c'est pour ça que je t'en souhaite, hein, Patrick. Bonne soirée.
On n'a pas le choix.
Bonne soirée, Patrick.
Merci.
Bon, et on pense fort à toi, mon gars. Salut Patrick, bonne soirée,
ciao,
à bientôt.
Ciao,
salut.
Ah ouais, tu penses pas tant que ça à lui, dans deux minutes tu l'auras oublié.
Okay, ouais, on sera passé.
Ça c'est la mentalité des profichtes. Ça c'est la mentalité des profichtes. Ça c'est l'égoïsme des gens du Nord.
Comment il s'appelle, monsieur?
Patrick.
Ah ça va, on est 30 secondes après. Quelle est la mentalité des gens du Nord?
N'importe quoi.
Du Nord du Portugal, parce que t'es toujours le mec du sud de quelqu'un.
Je peux te dire, quand j'ai vu José Mourinho à l'issue de la victoire contre Newcastle, avec Manchester, et sa petite dédicace à la caméra, je me suis dit, toi mon pote, on voit que t'es passé par le Nord du Portugal. Avec la petite insulte en trois mots. Bref. Merci beaucoup Pierre, merci Daniel. Daniel qui reste de toute façon là, parce qu'il y a le RMC Poker Show qui prend le relais. Demain, n'oubliez pas, l'after avec les drôles de dames, after de 2h demain. Merci à toutes et à tous, merci aux équipes éditoriales, Arthur, Robert, et à demain. Ciao, ciao.
Ouais, RMC, devant les caméras. Football Show, l'After Foot.